bonjour.
Bonjour.
Donc c'est l'émission mensuelle du Grémos. Je suis aujourd'hui avec Jean-Paul Bentière et nous allons faire une émission un peu spéciale puisque Jean-Paul vient de soutenir brillamment sa thèse devant l'université de Rennes, devant un jury d'éminents historiens. Donc sa thèse consacrée à l'union départementale CFTC-CFDT, pardon, 1944-1988. Eh bien, c'est pas facile de présenter une thèse d'histoire en une heure, d'abord, devant un public, en plus, qui n'est pas forcément de spécialiste. Alors, quelques mots sur les caractéristiques de ce travail. C'est donc une traversée de l'histoire du bassin depuis 1945 jusqu'à nos jours, enfin, plutôt jusqu'aux années 90, oui. En gros, un demi-siècle. C'est le portrait, l'évolution d'une union départementale qui ne manque pas d'originalité. On va essayer d'en dégager quelques traits. Et c'est un travail appuyé sur une solide plongée dans des sources variées, sources préfectorales bien sûr. Les policiers sont toujours soucieux d'être bien renseignés sur ce qui peut poser problème au pouvoir syndical, la presse, mais aussi de nombreuses sources internes. Des documents qui sont plus ou moins publics. Rappelons que l'Union départementale a versé une partie de ses archives aux archives départementales, de très nombreux entretiens que tu as conduits, Jean-Paul. Et puis tout ceci avec en arrière-plan le travail d'Alban Graziotin qui permet de restituer un peu le contexte des luttes, notamment dans les années 70. Alors Jean-Paul, une thèse, c'est d'abord une histoire personnelle. Donc j'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené à ce travail et qu'est-ce que tu en as retiré comme plaisir.
Alors, il y a à la fois le fait que pendant un temps, j'ai été adhérent de la CFDT, dans les Dusgen CFDT exactement dans les années 1970. Il y a aussi que, à cette époque, si j'étais adhérent... de la CFDT, je crois que à cette époque, la CFDT pour moi continuait d'une certaine façon le mouvement de mai-juin 1968 auquel j'avais participé. Et puis il faut dire aussi, alors ça c'est deux causes très importantes évidemment de ce choix, et puis il y a quelque chose qui est plus qui tient plus de l'anecdote. C'est que, en gros, j'ai arrêté mes études en 1967, on va dire pour faire de la politique pendant un certain temps. Et pourtant, j'aimais beaucoup l'histoire. Et donc, j'étais enseignant prof d'histoire, mais il y a quelque chose qui me manquait, je crois, c'était qu'en étant prof d'histoire, on n'écrit pas d'histoire. Toi, tu as fait cette expérience d'être prof et d'écrire d'histoire, et moi, je n'avais pas écrit d'histoire, et je m'étais dit à un certain moment que quand je serai à la retraite, j'écrirai de l'histoire. Et donc, j'avais un projet que j'ai mené à bien, voilà, peut-être pas la peine d'en discuter, donc j'ai écrit... un premier mémoire, puisque j'avais arrêté mes études, j'ai écrit un premier mémoire de maîtrise, et il se trouve qu'en écrivant ce premier mémoire de maîtrise, un ancien de la CFDT, qui s'appelle Christian Saint-Cernin, que j'ai rencontré dans ce travail, m'a mis en contact avec Pierre Héritier, en disant que Pierre Héritier recherchait quelqu'un pour interviewer des anciens militants. Et ça a été le point de départ de ce travail, parce que j'ai rencontré des anciens militants, j'ai discuté avec Pierre Héritier. Pierre Héritier avait un projet de livre qu'il n'est pas arrivé à mener à bien. Et pendant un temps, je me suis dit que je pourrais peut-être travailler avec lui. Et puis un jour, j'ai rencontré Jean-Michel Stenner qui est en face de moi et qui m'a dit, oh là là, en fait, ce qui serait intéressant, mais c'est à toi de voir, mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être que tu écrives une histoire de l'UD, CFTC, CFDT de la loi. Et donc, ben voilà comment ça a commencé. J'ai fait un mémoire d'abord de recherche sur l'UD, CFTC, CFDT de la Loire. Et puis, à partir de ce travail-là, je me suis lancé donc dans une dans une thèse sur l'UD, CFTC, CFDT de la Loire, avec l'idée de...
Alors, comprendre.
Avec l'idée de comprendre l'évolution de cette UD et avec l'idée de questionner un certain nombre de, à travers cette histoire de l'UD, CFDT de la Loire, un certain nombre de problématiques posées sur la CFDT. Parmi ces problématiques, je crois qu'il y a la question de l'identité de la CFDT. La CFDT est un syndicat très différent de, oui, de la CGT. Donc l'identité de la CFDT. Il y a la question du recentrage. À un certain moment de son histoire, la CFDT change de ligne. Comment ça se fait? Pour faire quoi? Et qu'est-ce que ça introduit comme changement? Il y a la question, alors qui n'est pas spécifique à la CFDT, qui est la question de la désyndicalisation. Mais la CFDT est frappée de façon extrêmement grave par la désyndicalisation dans les années 70 et 80. Et puis la dernière question, mais qu'on avait découverte avec Alban Graziotin, que tu mentionnais tout à l'heure, en ayant déjà commencé le travail, c'est la question de l'insubordination ouvrière que Xavier Vignat avait posée et des liens que la CFDT avait pu avoir avec l'insubordination ouvrière, alors, et en particulier dans la Loire.
Donc, une histoire personnelle quand même au départ. Tu as cessé d'être adhérent à un moment donné.
Oui, pardon.
Tu as cessé d'être adhérent à un moment
donné. Oui, j'ai cessé d'être adhérent à un moment donné, mais...
Donc tu étais un peu à la recherche de... Pour quelle raison j'ai cessé de militer dans ce syndicat? Qu'est-ce qui t'a un peu fait partir?
C'est marrant que tu dises ça. Moi, j'étais plutôt à la recherche de... j'ai été militant à une époque... Et j'ai envie de revenir sur cette époque où je dirais plutôt ça. Motivation. J'ai été militant à une époque, j'ai cessé d'être militant, et j'aurais envie de revenir sur le militantisme et sur les rapports entre le militantisme que j'avais pu avoir, qu'on va qualifier de militantisme gauchiste, et la CFDT.
D'accord. Donc, on va commencer par voir en quelque sorte ce qui explique la genèse de la CFDT. Et notamment, quel rôle a joué dans cette genèse de la CFDT. Donc, il faut rappeler qu'elle est issue de la déconfessionnalisation de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Qu'est-ce qui fait que, quel rôle les syndicalistes CFTC de la Loire ont joué au niveau national? Donc, il faudrait que tu nous dises quelques mots sur cette marche vers la déconfessionnalisation et le rôle des militants de Saint-Étienne et du bassin stéphanois.
Alors, donc, en 1944, la CFTC est un syndicat, on va dire, chrétien et un syndicat d'employés, ce qu'elle est depuis sa création en 1921. Mais il se sont passés un certain nombre d'événements qui vont permettre une transformation dans la Loire et ensuite au niveau national. Alors, en allant assez vite, dans la Loire, il y a un rôle personnel qui a joué quelqu'un qui s'appelle Jean Pralon et qui était dans un courant qui s'appelait la Jeune République, c'est-à-dire que Jean Pralon était chrétien, mais partisan du socialisme et a été secrétaire général de l'UDCFTC avant la guerre. Bon, mais plus collectif, c'est la JOC et la JOCF. C'est-à-dire que... Jeunesse ouvrière chrétienne, qui vont rentrer et qui, en rentrant dans la CFTC, vont faire entendre une voix ouvrière à l'intérieur de la CFTC. Rôle de la guerre et refus, malgré des ambiguïtés dont on avait déjà parlé, je me souviens, dans une précédente émission, mais quand même, la CFTC refuse la charte du travail et signe, je ne vais plus trouver le nom, et signe un accord avec un certain nombre de dirigeants de la CGT sur le syndicalisme et sur les principes du syndicalisme, qui fait qu'il y a un rapprochement, limité, mais un rapprochement entre CFTC et CGT. Alors, Si on
donc
passe,
ça, c'est pendant la guerre et c'est le tableau au lendemain de la guerre.
Voilà. Fait. Alors donc au lendemain de la guerre, on a une CFTC dans la Loire qui va être dirigée par quelqu'un qui est quelqu'un de l'ancienne école, qui s'appelle Éloi Chacornac, qui est au MRP, qui est directeur de la Dépêche démocratique. Mais face à Éloi Chacornac, un ancien militant qui s'appelle René Matvé va réaliser une alliance, en fait, de jeunes de la JOC, de membres du MRP qui sont d'accord pour travailler avec lui, et René Matvé va faire partie d'un groupe qui existe dans la Loire et qui existe au niveau national, qui s'appelle le groupe Reconstruction. Groupe Reconstruction qui, dès cette époque-là, en fait, a pour but l'évolution vers la déconfessionnalisation, l'évolution vers le syndicalisme d'industrie.
Donc c'est-à-dire un syndicalisme qui se démarque du syndicalisme des employés.
Bien sûr.
Et qui rassemble en fait tous les salariés d'une même entreprise.
Absolument.
Et non pas en jouant sur les catégories.
Absolument. Et en fait, la lutte va être longue. Parce que, par exemple, René Matvé devient secrétaire général de l'UDCFDT de la Loire en 1946, mais il faudra attendre 1961 pour que les minoritaires de la CFDT, en la personne d'Eugène Descamps, deviennent le secrétaire général de la CFTC, puis 1964, pour que la CFTC devienne la CFDT.
Alors, si on revient dans la Loire, quand même, puisque 44-45, c'est le moment où on a une très forte poussée de la CGT et du PCF, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est un petit peu en filigrane de ce que tu viens de dire, c'est qu'on a un héritage qui est quand même aussi marqué par une fascination pour le PCF. En 1945, c'est le parti de la résistance, c'est le parti de Stalingrad, etc. C'est le parti de la classe ouvrière, et chez ses membres de reconstruction, il y a l'idée que en restant tel qu'on est à la CFTC, on va se couper de la classe ouvrière.
Il y a ça. Et alors, il y a deux choses. Mais parce que en même temps, et ça c'est Claudius Ravachol qui me l'avait dit. Je lui avais posé cette question. Claudius Ravachol, il fait partie de ces premiers militants que j'avais interviewés. Et je lui avais dit, mais comment ça se fait que vous, qui êtes partisan à ce moment-là de ce qu'on peut appeler la révolution, vous n'êtes pas au PCF? Il me dit, mais parce que à la JOC, moi, j'ai lu. Et j'ai lu Gide, j'ai lu Retour du RSS. Je sais qu'il y a eu les procès de Moscou. Je sais qu'il y a eu Katyn. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour moi.
Bien sûr. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que CFTC, il y a chrétien dedans.
Ouais.
Et comment peut-on, quand on est chrétien, se rapprocher d'un parti qui, sans être forcément anticlérical, est quand même clairement athée?
Alors, il y a deux choses. Là encore, il y a deux choses dans ce que tu dis. En 44, il y a un pacte d'alliance entre la CFTC, d'alliance syndicale, je ne me souviens plus exactement du terme, entre la CFTC et la CGT. Et brutalement, en 1944, la CGT propose la fusion organique.
L'union organique,
oui. Et la fusion organique, c'est inacceptable pour tous les militants de la CFTC, y compris les gens de reconstruction, parce qu'ils disent, à partir du moment où il n'y a pas de droit de tendance dans votre organisation, à partir du moment où vous êtes extrêmement majoritaire, on n'aurait pas notre place. Et Reconstruction s'oppose à un certain nombre de militants de chrétiens qui, eux, passent à la CGT et dont certains vont même au PCF.
Oui. Et en fait, tout ça, c'est aussi dans le contexte de l'après-guerre, avec la guerre froide qui va monter, avec la scission qui va se produire à l'intérieur de la CGT, un contexte où la vie syndicale est en profonde transformation. On va en redire quelques mots tout de suite. Mais cette fascination pour la classe ouvrière, pour l'idée que le PCF est le parti de la classe ouvrière, est quand même véhiculée, tu l'as dit, par des anciens de la JOC, du mouvement de libération des peuples. Et elle s'explique aussi par une histoire locale qui est importante quand même. C'est une tradition ouvrière, ouvriériste même, on pourrait dire, que la CGT a largement reprise à partir du moment où le Parti communiste la contrôle, c'est-à-dire dès 1935, mais encore plus en 1945. Et cette tradition ouvriériste qui est aussi un héritage de l'anarcho-syndicalisme. Donc ce serait un peu la deuxième voie qu'on pourrait prendre dans ta thèse, c'est-à-dire cette création de la CFDT, est-ce qu'elle n'est pas, en quelle mesure, on va essayer de voir comment fonctionne la CFDT, quelle est l'originalité de cette organisation, avec comme point de départ cette hantise qui est celle de la bureaucratisation. On reproche à la CGT d'être un parti, un syndicat, pardon, d'abord très lié au Parti communiste, oui. d'où mon lapsus, mais ensuite un syndicat dans lequel les permanents jouent un rôle important, où il n'y a pas de véritable démocratie ouvrière. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans la CFDT, dans cette genèse qu'on voit dans les années 50, à travers différents conflits que tu étudies, notamment dans le cadre de ce qui va devenir Creuse-Loire, la CFL puis Creuse-Loire, est-ce qu'il n'y a pas cette recherche permanente, peut-être vaine, on en dira quelques mots à la fin, de la démocratie ouvrière?
Alors, il y a une proclamation de la recherche de la démocratie ouvrière. Il y a, dans l'esprit de certains intellectuels de la CFDT, le personnalisme d'Emmanuel Mounier. Par exemple, je cite une déclaration au moment de la formation de la CFDT, dans laquelle Alfred Moutet dit qu'il faut une organisation forte, mais qu'une organisation forte, c'est une organisation avec des personnes formées. Alors, en même temps, donc il y a cette idée-là qu'il faut former des personnes, qu'il y a cette opposition en fait à l'image stalinienne en gros. Oui. Mais alors, est-ce que dans les faits, cette démocratie ouvrière s'organise? Alors là encore, si je vais un peu plus loin. Au congrès de 1972, l'UDE de la Loire s'engage à faire des assemblées générales dans lesquelles on consultera l'Assemblée générale sur à la fois sur les buts, sur les revendications et sur les modes d'action. Et ensuite, on consultera l'Assemblée générale sur les résultats de cette négociation. Eh bien, mis à part et on a parlé à ce moment-là d'autogestion des luttes dans la CFDT. Eh bien, je crois que le seul exemple que j'ai trouvé où ça a fonctionné de cette façon, c'est la grève des Nouvelles Galeries en 1970 à Saint-Étienne. Mais j'ai plusieurs exemples où on a un fonctionnement traditionnel où on n'a pas d'assemblée générale, ou bien des assemblées générales qui jouent pas ce rôle-là. On n'a jamais de... Par exemple, dans la Loire, je ne pense pas qu'on trouve un comité d'action comme celui qui a pu exister à Lippe, alors qu'à Lippe, il y avait le syndicat CGT, la CFDT et le comité d'action. Mais je ne l'ai jamais trouvé, dans la Loire. Et alors, dans toutes les années 70, on voit la CFDT dans les journées d'action communes avec la CGT essayer de demander qu'à chaque fois, avant les grèves, il y ait réunion des travailleurs pour discuter de ce que je disais, des revendications, des modes d'action. Et en fait, peut-être à cause d'un rapport de force très favorable à la CGT, et peut-être aussi à cause d'un fonctionnement traditionnel de la CFDT, quasiment, ça ne se voit jamais.
Oui, donc on se heurte à une culture, à une tradition, et c'est intéressant que tu notes que le contre-exemple, c'est Lippe. Or, Lippe, c'est né dans une région où la tradition syndicale est différente de celle de la Loire. Donc, en même temps, tu as fait plusieurs fois allusion, notamment à travers la grève des Nouvelles Galeries, Cet héritage anarcho-syndicaliste, il est bien relancé par, les événements de 68. Donc on a une espèce de relance qui va durer pendant quelques temps, puis qui va progressivement s'affaiblir. Et après 15 ans, en 79, je crois, à un moment, tu fais un bilan qui est assez peu élogieux de fonctionnement de la CFDT, presque un échec fait par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés en 1964, au moment de la création, de la déconfessionnalisation, oui, et de la création de la CFDT.
Et puis, oui.
Voilà.
Les vous garantit l'heure exacte au troisième top, exactement 13h. Au troisième top, 13h, LIP, c'est l'heure.
Dans tous les temps, des gens sans âme ont raillé gaiement à foison. De vrais martyrs, hommes et femmes, dans l'exil ou dans la prison. Jadis la horde des traqués, de ceux qui fourmillent partout, traitait Jeanne d'Arc de toquée et Christophe Colomb de fou. Respect à la sinistre folle, terreur des bourgeois alarmés, la rouge vierge du pétrole, c'est la vierge des opprimés. Dans cet enfer qui la vit naître, Louise a pris en grandissant la devise ni Dieu ni maître, si chère au peuple tout puissant. Dans la lutte qui nous appelle pour conquérir l'égalité, on peut ne pas penser comme elle, mais qu'on honore sa bonté. Respect à la sinistre folle, terreur des bourgeois alarmés, la rouge vierge des pétroles, c'est la vierge des opprimés. Elle n'a pas cette héroïne, dans un moment de désarroi, par une vision divine, sauver sa patrie et son roi. On la voit sans cesse à toute heure quand le péril est menaçant, pour l'exploiter qui souffre et pleure, toujours prête à verser son sang. Respect à la sinistre folle, terreur des bourgeois alarmés, la rouge vierge du pétrole, c'est la vierge des opprimés. Pour elle il n'est pas de frontières, tous les gueux doivent être unis, partout les peuples sont des frères, les oppresseurs ses ennemis. Voilà les crimes de l'infâme que l'on persécute ici-bas, tirant, torturer cette femme, mais au moins ne l'insultez pas. Respect à la sinistre folle, terreur des bourgeois alarmés, la rouge vierge du pétrole, c'est la vierge des opprimés.
Eh bien donc c'est Roland Roche qui chantait La Vierge des Opprimés, une chanson de Jean-François Gonon, auteur stéphanois, et qui fait référence à Louise Michel, donc la célèbre militante anarchiste, ouais, qui est souvent venue à Saint-Étienne et qui nous remet donc un peu dans le contexte de cette émergence du mouvement ouvrier stéphanois il y a déjà fort longtemps, à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République. Donc avec Jean-Paul Benthière, on revient sur sa thèse, donc l'Union départementale CFTC-CFDT 1944-1988. Et sur deuxième point qu'on pourrait évoquer, c'est donc la CFDT se crée d'une part à partir d'une sorte de mutation, mais qui n'a pas été complète, de la CFTC, puisque une partie est restée quand même CFTC, mais on ne va pas traiter de ça, et d'autre part d'une relation sur la question de l'unité ouvrière, l'unité syndicale. Alors il y a un paradoxe quand même de créer un syndicat alors qu'on prône sans cesse l'unité syndicale. Alors la volonté unitaire de la CFDT est incontestable. est incontestable. On le voit notamment dès le début, dans les années 65-66, avec le fameux accord unitaire dont tu vas peut-être nous dire quelques mots. Mais d'une part, elle est variable selon les contextes. Donc peut-être tu peux nous faire un petit panorama des poussées unitaires et des reculs unitaires. Et elle ne se fait pas à n'importe quel prix.
Voilà. L'unité d'action, c'est compliqué. Alors, d'abord, premier point, l'unité organique est impossible. On l'a déjà dit, mais par contre, l'accord de 1966-1967 est fait pour cette raison. L'unité d'action est nécessaire. Si cet accord est signé entre la CGT et la CFDT, et effectivement il est paradoxal à ce moment-là, c'est parce que les deux syndicats ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire aboutir leurs revendications. Et donc il s'agit de se rendre plus fort en fait et d'arriver à faire bouger les choses. Alors cet accord, il est doublement paradoxal. Parce que théoriquement, le partenaire, sur le plan des idées, le partenaire de la CFDT serait dû être Force ouvrière. Et d'ailleurs, dans la Loire, c'est la CFTC qui permet à Force ouvrière d'exister à ses débuts, en fait. Mais le partenaire logique de la CGT, celui auquel la CGT aurait dû proposer l'unité, et d'ailleurs a proposé l'unité tout le temps, c'est Force ouvrière. Or, à ce moment-là, l'union se réalise entre ceux entre lesquels on n'aurait pas pensé qu'elle se réaliserait, mais je pense parce que Eugène Descamps est convaincu à ce moment-là Eugène Descamps, il n'a rien à voir avec le communisme. voilà. Il n'a rien à voir avec la ligne de la CGT, mais il est convaincu à ce moment-là qu'il faut faire l'unité d'action avec la CGT si on veut faire aboutir un certain nombre de revendications.
Alors, en fait, c'est dans ce début des années 60, c'est un drôle de jeu à trois qui se joue. Comme tu l'as dit, la CGT lorgne vers Force ouvrière parce qu'en fait, Force ouvrière est issue de la scission et qu'elle aimerait bien que cette scission soit résorbée. Elle ne le saura jamais. La CFDT lorgne vers la CGT, mais aussi vers FO.
Mais aussi vers Force ouvrière.
Tu écris un moment, l'unité d'action avec elle est indispensable, avec la CGT est indispensable. Au contraire, on reprochait à Force ouvrière, avec qui on n'avait pas de divergence doctrinale. Alors, moi, je serais un petit peu plus réservé que toi, parce qu'il y a quand même, je pense, chez Force ouvrière, qui est une organisation qui est fortement quand même influencée par la mouvance socialisante, on dira, et un peu gaulliste aussi, puisqu'elle est née dans le contexte de la guerre froide, il y a quand même une méfiance vis-à-vis d'une organisation de culture chrétienne.
Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, peut-être qu'un des drames de ces deux organisations, tout du moins avant le recentrage de la CFDT, c'est qu'elles étaient tellement opposées par leur culture. Je veux dire, il n'y a pas de divergence doctrinale sur la liberté ou la dictature du prolétariat.
Sur le fonctionnement syndical.
Voilà. Mais en fait, les gens de la CFDT... Enfin, par exemple, si je prends le cas de la Loire, René Matvey, lui, est un partisan de l'unité avec FO. Mais à la fin de la guerre d'Algérie, et puis dans les années qui suivent la guerre d'Algérie, eh bien, il y a un certain nombre de militants, comme Étienne Chauvet, comme Pierre Héritier, comme Alfred Moutet, qui pensent que, en fait, FO est trop corporatiste, FO n'a pas suffisamment de visée émancipatrice, et puis FO, disent-ils, se bouge pas beaucoup. Ce qu'ils vont reprocher à FO, c'est de ne pas se bouger beaucoup. Alors que la CGT, même si on n'est pas d'accord avec elle, représente une force de frappe très importante et qu'on a l'espoir qu'on pourra, on pourra bouger, on pourra obtenir des résultats.
Alors cette unité d'action avec la CGT, elle va passer par des hauts et par des bas. Oui. Donc 68...
C'est un bas.
C'est un bas, effectivement. Et on revient au début des années 70 avec une CGT qui, en fait, est revivifiée par le programme commun que la CFDT regarde, sur lequel jette un regard assez... assez douteux, enfin assez circonspect, plus
oui,
exactement.
Oui, tout à fait, hein. Tout à fait. La, en gros, les années, enfin les années 66, 67, il y a cette unité d'action. 68, il y a vraiment divorce entre la CGT et la CFDT, par exemple sur les rapports avec les étudiants, par exemple sur les buts du mouvement. Enfin voilà, il y a plusieurs accrochages et
on peut quand même se poser, excuse-moi de te couper, mais on peut se poser la question, est-ce que la CFDT, dans ses relations avec les mouvements étudiants et les mouvements gauchistes, on voit bien certains événements, grève des immigrés, mouvement des soldats, mais aussi certaines grèves, comme celle des aciéries du Furan, dont on a déjà parlé, est-ce qu'il n'y a pas une façon, comment dirais-je, opportuniste de la part de la CFDT de chasser sur des terres qui peuvent un peu mettre en danger ou en difficulté la CGT, d'où une réaction qu'on voit à certains moments, la CGT qui accuse la CFDT d'être trop proche des gauchistes.
Oui, mais on peut prendre un exemple, c'est l'assassinat de Pierre Auvernet. Au moment de l'assassinat de Pierre Auvernet,
donc là on est en 72, Pierre Auvernet, militant maoïste, donc assassiné devant Renaud
Billancourt. Alors voilà. À ce moment-là, la CGT mène une campagne contre la répression. Et dans cette campagne contre la répression, c'est une campagne contre la répression patronale, mais aussi contre la répression étatique, qui utilise des gauchistes pour attaquer la CGT. Or, ça se passe là, quand même, devant l'assassinat d'un militant ouvrier.
Là, on est toujours dans la logique de 68, hein, les gauchistes aventuristes qui faisaient le jeu du pouvoir. C'est ça,
d'accord,
c'est...
d'accord. Mais en même temps, Edmond Maire va venir à Saint-Étienne et il va déclarer que, bien entendu, il n'est pas d'accord avec la gauche prolétarienne qui était l'organisation à laquelle appartenait Pierre Auvernet, mais que le mouvement ouvrier doit être capable d'accepter, d'intégrer ces jeunes militants qui se battent, alors je ne sais plus exactement quels sont ces mots, mais pour un monde meilleur. Alors tu parlais de la grève des travailleurs immigrés, ça c'est la grève de la faim des immigrés, c'est un exemple où cette grève est soutenue par les gauchistes et par l'UDCFDT.
Alors que début 73.
Hein. Début 73, oui. C'est en même temps que Peugeot. C'est voilà. Et alors c'est à la fois bien enfin ça m'est difficile de répondre à ta question. Est-ce qu'on recherche l'alliance des gauchistes avec les gauchistes pour lutter contre la CGT? Ça, c'est en particulier l'avis de René Mouriot, qui dit qu'à un certain moment, la CFDT a joué ce jeu-là. Ou bien est-ce que, à ce moment-là, mais qui est un moment particulier dans l'histoire de la CFDT, c'est le moment justement où la CFDT est éloignée se méfie du programme commun. C'est le moment où la CFDT est le plus, on va dire, dans la tradition de l'anarcho-syndicalisme. Eh bien, à ce moment-là, il y a rencontre à certains moments entre des militants gauchistes et puis des militants de CFDT. Ça ne veut pas dire que ce soit l'entente que ce soit l'entente parfaite.
Bon, ce qui est intéressant, je dirais même fascinant dans ton travail, c'est de voir cette espèce de balancement. C'est pour ça que je voulais réfléchir sur cette originalité de l'UDCFDT, ce balancement entre un discours gauchiste, anarcho-syndicaliste, qui s'explique sans doute par, tu le dis notamment au début, deuxième chapitre, je crois, la surreprésentation du Parti Socialiste Unifié dans la direction, Et puis un discours ou des actions qui sont beaucoup plus modérées. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est si on se place au tout début 65, notamment au moment de l'élection présidentielle, tu évoques la surreprésentation du PSU dans la direction, le soutien, c'est quelque chose que je connais un petit peu, de la CFDT naissante à la campagne de municipale, lorsque le PSU s'allie avec le PC au niveau local pour essayer de prendre la mairie, donc après le décès d'Alexandre de Fraissinette. Et puis, en même temps, au moment des élections présidentielles, on voit, tu publies un sondage, tu cites un sondage, où on voit que la base de la CFDT est plutôt centriste. Hein. Elle vote très peu pour Mitterrand, elle vote beaucoup pour De Gaulle,
elle vote beaucoup
elle vote
pour
pas mal pour le Canuet encore, donc c'est assez étonnant. Est-ce que ce n'est pas l'explication de cette espèce de valse hésitation de la CFDT entre un discours gauchiste et puis un discours, une réalité plus modérée, plus centriste?
Alors, on peut prendre un autre exemple. C'est qu'à Saint-Chamond, à ces élections municipales, il y a autant d'adhérents de la CFD, de la CFDT sur la liste d'Antoine Pinet que sur la liste de gauche. Alors, est-ce que ça explique ce discours balancé? Moi, je pense que ça pourrait plutôt expliquer les différences entre le discours qui est un discours révolutionnaire et la marche quotidienne des syndicats et le positionnement des syndicats dans les actions menées. C'est-à-dire que dans les actions, il y a effectivement quelque chose d'une rupture entre le discours tenu et la pratique syndicale dans les entreprises, au moins dans certaines entreprises.
Alors la question, c'était en fait, parce que il y a cette culture modérée, cette culture du dialogue, cette culture du respect quelque part du chef d'entreprise et puis de sa marche d'initiative qui va finalement ressurgir au moment où on va se poser la question du recentrage. Mais si j'en reviens, avant de parler du recentrage, au fonctionnement de l'union départementale. Alors tu cites dans ton travail deux lettres envoyées par Georges Ville à Pierre Héritier. Et ça, j'ai trouvé tout à fait intéressant. Donc on est en 1983, donc pratiquement à la fin de la période que tu étudies. Et il y a comme une espèce de constat d'échec quelque part, puisque le militant qui se dit désabusé, qui regrette aussi le gâchis économique, hein, parce qu'on est après toute une série de destructions d'entreprises dans la Loire, et la CFDT a une longue réflexion depuis les années 60 sur l'avenir économique de la Loire. Elle essaye de participer aux tables rondes qu'organise le préfet, etc. En même temps, donc, elle a pas réussi à empêcher cette destruction industrielle. Et on a en quelque sorte, à la lecture de ces lettres, l'impression que Georges Ville reproche à la CFDT d'avoir pas été capable d'empêcher cette destruction, et il pose cette question: quand va-t-on occuper les unions départementales? C'est-à-dire, en gros, voilà, les syndicalistes qui vont eux-mêmes se lever contre ces unions départementales. Est-ce qu'il n'y a pas un constat d'échec sur le projet initial, justement, d'un syndicat démocratique, ouvrier?
Alors, quel est l'échec? Alors, il me semble d'abord que cet échec a empêché les... Parce que là, on est passé dans une période qui est une période très très dure et qui est la période marquée par les licenciements, par les fermetures d'entreprises, par malgré des combats, malgré des vrais combats qui sont menés à cette époque.
Alors, pour ajouter qu'en fin 83, c'est aussi la désillusion devant le devient le gouvernement de la gauche.
Absolument. Mais donc, j'allais dire, on peut distinguer les deux choses. Parce qu'il y a l'impossibilité d'empêcher les licenciements et les fermetures d'entreprises. Mais cet échec, c'est celui de la CFDT, mais je crois que c'est aussi celui de la CGT.
Ah, mais ça, on est
d'accord. Non, donc, bien sûr. Alors, ce qui est l'échec de la CFDT à ce moment-là, et peut-être ce qui explique le ton de Georges Ville, c'est qu'à ce moment au moment où on en est du pouvoir socialiste, la CFDT s'est rapprochée, a tenté une... Enfin, la CFDT au niveau national, au niveau confédéral, a tenté une alliance avec le parti, avec les gouvernements socialistes, et qu'elle passe pour un syndicat gouvernemental. Et j'ai donné des déclarations qui montrent que Michel Zapata, par exemple, qui est le secrétaire général de l'époque, dit mais on passe aux yeux des ouvriers pour un syndicat gouvernemental à cause des accords qu'on a passés ou de notre politique d'alliance avec le Parti socialiste. Donc c'est là qu'on peut voir l'échec de cette politique d'alliance et le ressentiment qui est exprimé par Georges Ville à son copain, à celui qui était son ami, Pierre Héritier.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main d'étroit, emblème éclatant du courage. Toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'ombris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe dragon rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'ombris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier.
Sous la commune, il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons.
Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, ses longs plis au combat préparé. Osez, osez défier notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier.
Voilà, on vient d'entendre le drapeau rouge, Jean-Paul Benquer, on parle de ta thèse, l'union départementale CFTC-CFDT 1944-1988. Alors, est-ce que le drapeau rouge est un emblème qu'arborent les militants de la CFDT ?
Alors ça, il l'arbore de la CFDT, oui, mais pas tout de suite. Alors le drapeau rouge, oui, absolument, ils ont des casquettes rouges.
Oui.
D'ailleurs, j'ai trouvé un rapport des RG sur une manifestation qui disait que les casquettes rouges étaient très nombreuses. Et puis... Il y a un moment où la couleur va changer, c'est le congrès de 1988, où le congrès national de 1988, qui marque le départ d'Edmond Maire et aussi le départ forcé de Pierre Héritier de la direction de la CFDT, les couleurs sont devenues orange.
Ouais.
Et il y a un reportage de l'INA dans lequel le reporter de France 3 se demande s'il n'y a pas un sens à ce changement de couleur.
Parce que l'orange, c'est quand même du rouge avec du jaune. Hein, c'est un
oui,
peu...
et ben oui.
Bon, et alors, le drapeau rouge est un symbole quand même du mouvement ouvrier, mouvement bien beaucoup sûr. Utilisé par le PC et par la CGT. Et un autre symbole, c'est l'international. Alors, tu parles d'un épisode intéressant... Dans ta thèse sur l'utilisation ou non de l'international par les militants CFDT.
Alors, j'ai interrogé Georges Goubier. Hein, oui. Et Georges Goubier m'a dit que l'international, on l'entend à partir de 1968, en fait. Jean-Michel Helvig, dans son livre sur Edmond Maire, raconte une anecdote qui est assez drôle. C'est qu'au congrès de 1970, qui est le congrès donc qui se passe après 1968, eh bien à la tribune, on chante l'International. Et alors, il y a quelqu'un qui est dans la salle qui lui a dit, bah, il y avait trois sortes de positions occupées par les membres les membres qui étaient à la tribune. Il y en a qui étaient assis, dont certains ne chantaient pas. Il y en a qui étaient debout avec les mains dans les poches, et puis il y en a qui chantaient debout avec le poing levé. Voilà.
Je crois que c'est un bon résumé finalement de cette histoire de la CFDT et des tendances qui existaient.
Et des tendances qui existaient à l'intérieur.
Alors Jean-Paul, ta thèse, elle présente un certain nombre de portraits qui sont fort intéressants et qui seront utiles pour les chercheurs de l'avenir. Alors parmi tous ces militants de la CFDT, de l'Union départementale CFDT, bon, certains ont eu un destin national ensuite, est-ce que tu pourrais nous en présenter deux, par exemple, qui te semblent particulièrement importants ?
Alors, c'est difficile de choisir, mais on pourrait en présenter deux qui seraient très différents par leur culture. Pierre Héritier a occupé, c'est évident, une très grande place puisqu'il est rentré, il est devenu permanent en 65, je crois. Il est rentré à la CFDT avant, mais il est devenu permanent à l'UD en 1965. Ensuite, il sera donc permanent. Ensuite, il sera secrétaire général de l'UD. Ensuite, il sera secrétaire de l'Union régionale interprofessionnelle. Et ensuite, il sera membre de la commission exécutive de la CFDT.
Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un apparatchik, quelque part.
Alors c'est...
Ça ne va pas lui plaire s'il entend l'émission.
Je pense que ça ne lui plairait pas. Je vais te laisser cette réflexion. Mais bien sûr qu'il a été membre de l'appareil. En même temps, je crois que c'est vraiment... un type d'employé, puisqu'il était employé de banque au départ, mais un type d'employé intellectuel qui a beaucoup, je pense qu'il a beaucoup lu, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup travaillé avec des intellectuels. Je crois qu'il est arrivé à une... Ça a été vraiment le leader avec ses partisans et puis des adversaires aussi, mais le leader et le penseur de l'UD CFDT de la Loire.
Grosso modo, qu'il a marqué de sa création jusqu'aux années milieu des années 80.
Alors, pas de sa création, mais parce qu'il arrive en 1957, je crois.
Oui, hein. Non, mais la création de la CFDT
tout 65,
à fait. En 65, il est déjà.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis il y a un autre. Alors, mis à part ces dirigeants-là, si on les prend tous, ils sont passés par le catholicisme.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose de commun,
même
Pierre Héritier, mais tout en voulant le laisser. Mais il y en a un qui est un personnage qui est très différent parce qu'il est issu d'une culture complètement opposée, c'est Michel Zapata. Michel Zapata, il est au départ de culture, il est d'origine espagnole, il appartient à une famille qui est de culture libertaire. Quand il commence à travailler, il est militant à la CGT. Et puis, en 68, il n'est pas d'accord avec la façon dont la CGT mène le combat. Il pense qu'il y a autre chose à faire que se battre pour des revendications quantitatives, comme on disait à l'époque. Mmh. Et il va passer à la CFDT. C'est un des rares exemples de militants qui passent de la CGT à la CFDT. Il va passer il va devenir secrétaire général de l'Union départementale entre 1980 et 1984. Tout à l'heure, tu faisais référence à la grève de Mavillor et à Georgesville, dans une période extraordinairement difficile, puisque à ce moment-là, c'est les licenciements et les fermetures d'usines. À ce moment-là, c'est la rupture avec la CGT entre les deux syndicats. Et il va essayer d'impulser une stratégie autonome de l'UDCFDT par rapport à l'UDCGT. Mais à ce moment-là, c'est aussi la crise syndicale qui frappe. Et en fait, là, il y a... malgré tous ses efforts, malgré toute sa conviction, il y a un véritable échec qu'il sanctionne lui-même d'une certaine façon en démissionnant de son poste, en quittant son poste.
Tu écris d'ailleurs à propos de Michel Zapata quelque chose qui me rappelle ce qu'on a évoqué pratiquement au début. Selon lui, la CFTC avait évolué en CFDT pour supprimer le clivage confessionnel qui freinait le développement du mouvement social. Donc il y a encore cette idée que voilà, la déconfessionnalisation était nécessaire pour que le mouvement social se développe. Donc deux personnages importants, il y en a beaucoup d'autres, il y a René Matvec que tu as évoqué, il y a Marcel Gonin, Jeannette Ravachol. Alors Jeannette Ravachol, donc on a un peu esquissé là à l'instant ce qu'on pourrait appeler un homo CFDTiste. Très rapidement, il y aurait effectivement cette enquête anthropologique qui serait ethnographique aussi, qui serait intéressante, que tu vas peut-être prolonger par une deuxième thèse.
On verra.
Mais il y a une femme, et justement, ça m'appelle à poser la question. Donc, Jeannette Ravachol, c'est la femme d'un militant, c'est aussi une militante, mais quelle est la place que la CFDT a accordée aux femmes? Est-ce qu'elle a en cela, elle se démarque de la CGT et peut-être encore plus de FO.
Comment dire ? Les femmes sont très peu nombreuses. Les militantes femmes sont très peu nombreuses à la CFDT. Sauf dans un secteur, qui est le secteur du textile, où là...
La santé.
Et de la santé aussi, mais la santé se développe plus tard. Et Étienne Chauvet et un groupe de jeunes femmes mènent dans les années 60, une véritable politique d'implantation dans le textile.
Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, ce que tu écris sur cette question.
Et donc il y a des jeunes femmes qui ont un rôle. En général, ces jeunes femmes ne sont pas mariées. En général, ils n'ont pas d'enfants. Quand tu parles de Jeannette Ravachol, elle qui était dans le commerce et donc qui a fini sa carrière à Manu France, c'est une femme qui n'avait pas d'enfants. Les femmes proches de la CFDT sont plutôt des femmes de militants qui s'occupent du ménage, de la maison et des enfants et qui militent parfois dans des associations de parents d'élèves ou sur les quartiers. Mais la place des femmes reste très restreinte. Je donne tout à la fin, dans la conclusion, je donne un exemple.
C'est ce qui m'amène à dire que tu insistes sur le fait que c'est la CFDT. Alors, est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est une particularité de l'UD? Ça resterait déterminé. Qui, quand même, pose les questions de ce qu'on peut appeler le cadre de vie? La question du quartier, la question aussi d'écologie qui va venir petit à petit. Et la CFDT joue un rôle important, notamment avec les fameux exemples de Pierre Héritier dans certaines grèves de femmes, donc la fameuse grève des Nouvelles Galeries en 1969. Ça, c'est important quand même parce que c'est vrai que la CGT a une culture plus machiste. Ça va venir plus tard quand même. Mais ça, on peut considérer que l'union départementale a joué un peu un rôle d'aiguillon dans ce...
Et je pense aussi qu'elle joue un rôle d'aiguillon dans la lutte pour la liberté de la contraception et de l'avortement.
Cette question-là, effectivement, qui est importante au début des années 70, procès de Bobigny en 72, mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, qui va... quelque part être repris par Giscard d'Estaing et Simone Veil dans le vote de la loi de 74. Donc la CFDT là joue un rôle tout à fait essentiel. On peut dire que là il y a une réussite.
Cette réussite est quand tu parles de rôle essentiel,
il appartient pas à elle toute seule, mais elle a quand même contribué.
Absolument. Jeannette Lahotte est vice-présidente du MLAC. Tout en étant à la commission exécutive de la CFDT. Donc c'est un signe que la CFDT et l'UDCFDT ont joué un rôle important à ce moment-là dans ce domaine-là.
Voilà, bien, cette thèse qui est très riche, on a en fait vu que quelques aspects, Jean-Paul, l'union départementale de la CFTC-CFDT de la Loire avec un sous-titre « Mutation, développement et crise d'une organisation syndicale ». 1948, que tu as soutenu devant un jury à l'Université de Rennes le 15 janvier 2016 avec un grand succès. On espère bien sûr qu'elle sera éditée pour une version grand public prochainement.
Oui.
Voilà, et on va te donner peut-être quelques annonces pour terminer cette émission. Donc, on va faire une nouvelle présentation. Enfin, ce ne sera pas moi, ce sera sans doute Maurice Bedouin.
Alors, le 18 mars, à la Maison de Quartier du Soleil, à partir de 17h, donc, nous ferons une présentation de cette thèse avec une partie où je serai interviewé donc par Maurice Bedouin, si voilà. Ensuite, une partie de
présence d'anciens militants.
Ah ben bien sûr, en présence d'anciens militants, bien sûr, il y a beaucoup de gens sont invités. Une partie de débat, et puis évidemment, on terminera par un pot.
Voilà. Voilà. Et je voudrais aussi ajouter que le 6 avril 2014, 6 avril 2016 aura lieu donc une journée importante et intéressante, je l'espère, autour du dictionnaire des fusillés qui a été édité depuis, publié il y a un an environ par les éditions de l'Atelier, donc en présence de Claude Pentier qui dirige cette édition. C'est un ouvrage un petit peu comme le Métron, qui est d'ailleurs issu du Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Et donc Claude Pentier viendra présenter l'ouvrage d'une part au Mémorial de la Résistance dans l'après-midi, ensuite à la médiathèque, et enfin en fin d'après-midi, début de soirée, à la Cinémathèque avec le film de Guédi Guian, donc L'armée du crime. Et puis tout ceci pour terminer, donc c'était l'émission du Grémos avec Lionel Fayol aux manettes, Jean-Paul Benquière et Jean-Michel Stenner. Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
Le genre humain, c'est la lutte finale.
exact au troisième top, exactement 13h. Au troisième top 13h, LIP, c'est l'heure.